et j'ai soif de sa présence. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre des Actes, au chapitre 2. On va aller voir une gang de hippies ensemble. Dans le livre des Actes. Une grosse commune. C'est juste de vous faire peur. Là. Avant d'aller en prière ensemble, vous avez apprécié le temps de prière il y a deux semaines et la prédication d'Alexandre, le temps de prière en assemblée. Ça a été un bon moment. Hein, on va chercher à grandir par la grâce de Dieu. À toutes les 6 semaines environ, on va faire ça cette année. Et volontairement, on veut grandir ensemble dans notre vie de prière. Et peut-être que vous êtes pas habitué à prier en groupe, mais comme vous voyez, c'est fait avec simplicité. On vous accompagne, on vous conduit dans tout ça. Et on a des bons moments ensemble. On reçoit des bons échos. Les gens prient avec des gens qu'ils connaissent pas. Ils sont édifiés, ça nous donne envie de connecter un petit peu plus ensemble, d'apprendre à se connaître, mais surtout de s'approcher de notre Dieu dans la prière. Et j'ai écouté la présentation de Marc Levasseur dimanche dernier. J'étais tellement, tellement touché. J'avais l'impression d'écouter l'apôtre Paul partir en mission. Le feu, le fardeau sur son cœur, la simplicité, la franchise. Ce matin, on est dans les Actes, puis on voit 3000 personnes remplies de l'Esprit. Donnez-moi-en 3000 comme celui-là. Hein? Quelle grâce! J'étais vraiment, vraiment touché, vraiment encouragé. Et j'avais l'impression de toucher à un cœur de missionnaire. Un cœur de missionnaire. Il nous a brassé, évidemment, sur notre vision des Autochtones, et c'était bon de se faire brasser. Ce qui m'a touché le plus personnellement, c'est sa passion, son amour. On entend le cœur de Dieu, n'est-ce pas? On voit l'amour de Dieu pour ces gens-là. Et c'est ce cœur-là que je veux avoir pour toutes les personnes que je rencontre, chaque personne que je rencontre à tout moment. Alors c'est sûr que Marc a un appel particulier avec son épouse pour aller vers les Autochtones, mais on a un appel à aller vers toutes les nations de la terre. Et que ce soit des petits-enfants, que ce soit des gens âgés, que ce soit mon voisin qui est hongrois, mon autre qui est en avant, qui baragouine son français, qui est anglophone. Je veux tous les aimer, je veux les voir justement comme ces gens à aimer passionnément et avoir le même cœur que Marc pour ces personnes. Qu'on puisse prier pour Marc, qu'on puisse l'accompagner, le garder dans nos cœurs, dans nos prières. Je vous mentionne aussi, la semaine prochaine, on continue dans les Actes. Alors, la semaine prochaine, on va voir ensemble Acte 3. On va voir tout le chapitre 3 ensemble. Alors, je vous invite cette semaine à prendre le temps d'aller lire ça, à prendre en note vos questions, les difficultés que vous voyez dans le texte, comment Dieu vous parle, à vous poser des questions du genre comment ça s'applique dans notre vie aujourd'hui, en 2012, pour l'Église de l'Espoir, dans votre vie à vous, comment est-ce que ce passage-là s'applique. Mais je vous invite à vous impliquer, d'accord, à vous investir à l'avance et à venir ici dans cette attente à l'égard de Dieu. Ayez cette attente à l'égard de Dieu parce que vous avez lu le passage de dire « Seigneur, j'ai besoin maintenant que tu viennes me parler à travers ce passage. » Yannick va passer 15 heures à étudier, à lire, à prier, à méditer, à chercher comment appliquer ça aujourd'hui. Viens Seigneur, je veux t'entendre, je veux que tu viennes me rencontrer. Et donc c'est pour ça qu'on vous donne à l'avance ces passages. De la même manière qu'on place ces insérés à l'intérieur du dépliant, comme je le mentionnais, c'est afin que vous puissiez vous investir davantage et qu'on puisse grandir ensemble dans notre connaissance, notre amour de la parole de Dieu, dans notre communion avec Dieu. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, tu es présent au milieu de nous. Et ce dont j'ai soif, c'est que tu te manifestes. Tu es présent, Seigneur, parce que tu habites au milieu des louanges de ton peuple. Tu es présent, Seigneur, parce que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur Jésus, tu es là au milieu d'eux. Bien, nous sommes près de 300, Seigneur, assemblés en ton nom. Et nous demandons, Seigneur, la manifestation de ton esprit, de l'esprit qui a créé ce peuple nouveau dans les Actes. Nous réclamons, Seigneur, que cet esprit se manifeste ce matin au milieu de nous, dans nos cœurs, chacun de nos cœurs ici, Seigneur. Viens, Seigneur, faire une œuvre ce matin à travers ce passage dans les cœurs qui souffrent, qui traversent des épreuves terribles, Seigneur. Et tu sais, mon Dieu, et je sais, mon Dieu, qu'il y a des gens ici ce matin qui souffrent dans leur âme, Seigneur. Et ils ont besoin que tu viennes les rencontrer par ta parole. Que tu viennes, Seigneur, les fortifier, que tu viennes les affermir, que tu viennes les encourager, Seigneur. Que tu leur rappelles que tu es Dieu et que ces promesses sont aussi pour nous, Seigneur. Que tu ne changes pas, que tu demeures le même. Je prie, Père, de venir te manifester à toute personne ici ce matin qui ne te connaît pas personnellement. Certains qui ont très peu entendu parler de toi, qui commencent à lire les Écritures, commencent à entendre parler de Jésus-Christ, mais ne te connaissent pas personnellement. Ne saisissent pas vraiment la portée de ton œuvre pour leur vie individuelle et personnelle, pour le salut de leur âme. Mais aussi ceux qui cheminent au milieu de l'Église depuis des années, des fois depuis la tendre enfance, sans jamais avoir été profondément bouleversés, sans avoir reçu l'Esprit, le pardon des péchés, et qui sont là et qui regardent l'Église, des fois avec un regard extrêmement cynique, un regard triste et pathétique, parce qu'ils voient nos luttes, ils voient nos manquements. Ils savent que l'Église n'est pas parfaite et que ce passage des Actes ne reflète pas chaque instant de la vie d'une Église. Accorde-leur une grâce, Seigneur. Accorde-leur la grâce d'être touchés par l'Évangile malgré nos manquements. Seigneur, que les manquements de l'Église, que mes manquements, que les manquements de leurs parents, de leurs amis autour d'eux, ne voile pas à leurs yeux, Seigneur, ton Évangile. Mais qu'ils voient leur propre cœur de pécheur et la nécessité qu'ils ont de venir à toi, Seigneur Jésus, pour recevoir ce pardon de leurs péchés et le don de l'Esprit Saint. Cette promesse est pour eux, en aussi grand nombre que tu les appelleras, mon Père. Père, je te prie de venir parler à nos cœurs ce matin, afin de nous humilier devant toi, Seigneur, là où nous sommes devenus cyniques, là où nous doutons de ta puissance, là où nous méprisons, Seigneur, la puissance de ton œuvre, là où nous avons attristé ton esprit personnellement dans nos vies, Seigneur. Et nous regardons des passages comme celui-là, peut-être avec un regard cynique, doutant de ta gloire et de ta majesté pour produire une telle communauté. Je rends grâce, Père, pour le témoignage de Marc Levasseur. Et je prie de garder sa vision, Seigneur, et toute l'équipe qui est avec lui, afin que là où ils vont aller implanter, Seigneur, une église dans ce milieu autochtone, dans ces milieux autochtones, Seigneur, ces gens ont besoin de voir une telle communauté comme nous la voyons ici, remplie de ton esprit, afin de trouver grâce auprès de tout le peuple qui est autour d'eux, et que plusieurs puissent être conduits à l'Évangile, Seigneur, par la puissance de ton esprit et par le témoignage de ces assemblées. Sois avec moi enfin, Seigneur. Sois avec moi ce matin. J'ai besoin de ta grâce, Père. J'ai besoin de ta force, Seigneur, afin de marcher avec intégrité et avec humilité et prêcher ta parole avec vérité. C'est en Jésus-Christ que je te le demande, Père. Amen. Amen. Excusez-le, matin. Merci. Alors, on va lire ce beau passage dans Actes 2. Et je vais commencer un tout petit peu avant, c'est-à-dire avant ce qui est annoncé. Je vais commencer avec le verset 38, d'accord? Alors, acte 2, 38, jusqu'à la fin du chapitre 2. Pour se remettre dans le contexte, parce que ce qui se produit dans les versets 41 à 47, c'est en fait le fruit de l'œuvre de l'Esprit, mais à travers la prédication de Pierre. D'accord? Alors, c'est la première prédication apostolique. On a un apôtre qui va prêcher, mes amis, avec la stature d'un prophète de Dieu, puisqu'on vient d'avoir l'effusion de l'Esprit, n'est-ce pas? Ils ont reçu l'Esprit Saint. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint comme il avait été promis, et vous avez ce nouveau Pierre qui se lève, avec la stature, la carrure d'un prophète, et qui vient annoncer, expliquer au peuple ce qu'ils sont en train de voir. Parce que là, il y a des manifestations vraiment bizarres qui se produisent. Certains les regardent et ils disent c'est une gang de gauchos qui sont en train de dire toutes sortes d'affaires. Mais non, c'est Dieu qui est venu par son esprit et qui, à ce moment-là, miraculeusement vient se manifester. Et donc, les gens qui sont là, les disciples qui ont reçu l'Esprit Saint, se mettent à parler et annoncer les gloires de Dieu. Parler de la grandeur de Dieu. Probablement parler de Jésus-Christ, d'Emmanuel, le Sauveur, le Messie attendu, mais dans les langues de chacune des personnes présentes là. Et donc, ces Juifs qui viennent de la diaspora, qui habitaient pas nécessairement uniquement Jérusalem, mais qui venaient d'un peu partout, avaient appris une langue seconde et ils viennent à Jérusalem et ils entendent ça dans cette langue. Pierre va expliquer ces choses et leur dit, les temps sont en train de s'accomplir, les amis. Les grandes prophéties de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir devant vos yeux. Et là, il leur explique l'Évangile, il leur parle de Jésus-Christ. Et ces gens-là vont s'exclamer au verset 37, regardons 37. Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ils sont bouleversés parce que là, ils comprennent que cet homme qui a été crucifié comme un criminel, comme un mécréant, est en fait, le Sauveur, le Messie attendu, annoncé par les prophètes depuis des siècles. Et donc, ils réalisent la portée de ce qui s'est passé, la portée de leurs actes, le message que Pierre est en train d'annoncer et ce qu'il leur est offert, le pardon. Et donc, ils s'exclament à ce moment-là et interrogent les apôtres et disent, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Parce qu'ils saisissent l'Évangile. Ils comprennent le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et Pierre leur répond, repentez-vous, détournez-vous de vos péchés, et particulièrement celui d'avoir rejeté Jésus-Christ. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Reconnaissez en lui votre Sauveur. Soyez baptisés au nom de Jésus le Christ, Jésus le Messie, Jésus le Sauveur. À cause du pardon de vos péchés. Parce que vous avez placé foi en lui, vous avez été pardonné, témoignez-en publiquement maintenant. Passez par les eaux du baptême et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce que vous voyez ici, là, qui est complètement fou, c'est aussi pour vous. Parce qu'en fait, c'est l'Esprit qui est en nous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, on a juste une partie de l'échange qui s'est passé entre la foule et les apôtres et les disciples, et probablement qu'à un certain moment donné, ils se sont mis à répondre à plein de questions individuellement, par petits groupes, un peu partout dans la foule. Et puis, Luc reprend ici son rôle de narrateur et nous dit au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et je crois qu'il résume ici lorsqu'il dit « En ce jour-là, les baptêmes se sont probablement étalés sur quelques jours, d'accord? Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » On estime la population de Jérusalem à cette époque-là. Les historiens estiment la population de Jérusalem entre 180 000 et 200 000 personnes. Et en quelques heures, le groupe des disciples de 120, 150, quelques centaines de disciples va augmenter d'environ 3000 personnes sur une population générale pour la ville de 180 000, 200 000 personnes. Et Luc commence à nous décrire simplement. Il fait juste faire une observation ici. Ça a une portée théologique. Il nous dit des choses, on va voir ça ensemble. Mais pour lui, il fait simplement nous relater ce qui se passe, comme un journaliste qui serait en train de dire ce qui s'est passé par la suite. Verset 42 et suivant, il persévérait. Ces 3000 âmes persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous. S'il vous plaît, décrochez pas tout de suite. Restez avec moi. On met rien à vendre tout à l'heure, d'accord? Selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous, le verset 47 ferme une boucle avec le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, que le Seigneur notre Dieu les appellera, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur appelait, le Seigneur sauvait, le Seigneur ajoutait à l'Église. Voici comment je résumerai le passage ici. Nous assistons à la naissance d'une communauté remplie de l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas d'une commune de joyeux hippies, mais d'une assemblée qui porte les fruits de l'Esprit de Dieu. Et cette promesse-là est aussi pour nous et pour vous, si Dieu vous a appelé. En somme, ce que Luc est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous dire, prenez le pardon des péchés, prenez l'effusion de l'Esprit, prenez le don du Saint-Esprit et voici ce que ça vous donne. Une communauté qui est remplie de l'Esprit et qui va porter des fruits de l'Esprit. Si j'essaie de placer ça dans le récit de l'ensemble des Écritures, d'accord, dans l'histoire du salut, des fois on utilise ce jargon-là ici en avant, quand j'essaie de voir qu'est-ce qui est en train de s'accomplir sur le plan prophétique, bien les prophéties de Joël 2 et d'Ézéchiel sont en train de se réaliser à ce moment-là. On a le peuple d'Israël qui est là et Dieu avait promis dans l'Ancien Testament qu'un jour viendrait où un reste, une petite portion du peuple d'Israël recevrait l'Esprit de Dieu et un cœur nouveau leur serait donné. On va lire ces passages dans Joël 2, 28-29, très brièvement, je vous les lis. Ce sont de belles prophéties, vous pouvez les prendre en note, les méditer plus tard. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Et donc Dieu avait annoncé un jour que tous ceux qui sont les descendants d'Abraham par la foi, vraiment recevraient l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, le roi pouvait avoir l'Esprit qui venait sur lui. Le prophète de l'Éternel pouvait avoir l'Esprit qui venait sur lui. L'Esprit faisait une œuvre au milieu du peuple. Mais il avait dit, un jour viendra où tous ceux qui placeront leur foi vraiment en moi recevront mon Esprit, il habitera en eux. Et cela va produire quelque chose dans leur vie. C'est pour ça que je vous cite le passage d'Ézéchiel 36. Pierre ne le cite pas ici, il cite Joël, mais c'est un autre passage qui parle des mêmes prophéties aussi. Alors dans Ézéchiel 36, les versets 26-27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et qu'est-ce que cela va produire? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est ce que Luc nous décrit ici, dans Acte 2. « Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Israël avait un cœur de pierre qui résistait à la loi de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait appelé un peuple, lui avait donné une loi sublime. J'avais une conversation avec mon père dernièrement. Et puis, il me posait des questions sur qu'est-ce que ça veut dire être évangélique si j'étais aux États-Unis. Est-ce que je serais plus à gauche, à droite? C'est le genre de discussion qu'on a ensemble. Puis, il dit, après toi, Jésus était plus à gauche, il était plus à droite. Puis, je ne vous dirai pas ce que je lui ai dit. Oh. Mais j'étais vraiment content d'aller dans l'Ancien Testament et de parler de la loi de Dieu. Et de lui expliquer comment cette loi était belle et était là pour donner un guide à un peuple qui aurait vécu différemment des autres peuples. Non seulement dans son culte à Dieu, mais dans ses rapports les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça voulait dire ne plus avoir d'argent en Israël? Être paumé financièrement. La loi de Dieu est merveilleuse. J'espère que vous savez ce que ça veut dire. J'espère que vous avez lu Deutéronome. J'espère que vous connaissez Lévitique. pour voir la beauté de la loi de Dieu. Mais Israël avait un cœur de pierre. Et donc, on voit cette belle loi qui est donnée, qui est là pour nous apprendre à aimer Dieu, nous apprendre à aimer notre prochain. Mais Israël avait un cœur de pierre et résistait à la loi de Dieu, a décidé de suivre d'autres dieux, a été rebelle, ont commencé à abuser les uns des autres, finalement à se comporter comme des païens. Puis Dieu, par ses prophètes, a dit qu'un jour viendrait où une transformation profonde serait possible. Parce qu'un sauveur viendrait, un Messie, qui apporterait le pardon des péchés, et de cela naîtrait un peuple nouveau. Un peuple nouveau qui aurait l'Esprit de Dieu en lui et par conséquence la loi de Dieu dans son cœur. Ézéchiel 36, je continue la lecture. « Et je vous donnerai un cœur de chair au lieu de votre cœur de pierre. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et en somme, c'est ce qu'on observe dans le passage ici. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un groupe d'individus comprend l'Évangile de Jésus-Christ, se repent de ses péchés, place sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et reçoit le don de l'Esprit, voici le genre de comportement auquel on assiste. Et c'est ça qui nous est décrit ici. Et cette promesse est pour nous. Dans les versets 42 à 47, Luc n'est pas en train de dire « Voici exactement comment va fonctionner chaque église. » D'accord? Ça, c'est important. Je vais faire le commentaire tout de suite. Maintenant, restez avec nous pour le livre des Actes, pour tout le livre des Actes, et vous allez le voir. D'accord? L'Évangile entre dans chaque culture, à différents endroits, et la forme, les pratiques exactes qui vont découler de ça vont s'adapter, vont changer selon les cultures. Alors, ce qu'on a ici n'est pas entièrement normatif. Mais les principes et les valeurs qui sortent naturellement des cœurs des nouveaux croyants, ceux-là le sont, par exemple. Ceux-là le sont. Et voyez-vous, lorsque Dieu sauve et donne son esprit et qu'au milieu d'une communauté, l'Esprit de Dieu a la liberté d'agir pour nous faire vivre enfin les lois de Dieu, le sermon sur la montagne, les béatitudes. C'est ça qui se passe, là. Vous avez 3000 personnes qui, tout d'un coup, sont en train de vivre les béatitudes. C'est gros. C'est ça, en gros. Et tout d'un coup, tout ce que Jésus avait dit, bien, vous avez 3000 personnes qui se mettent à vivre ça. Quel impact vous pensez que ça a sur la population? La population est bouleversée. Ils sont émerveillés. Ils n'en reviennent pas de voir ces gens-là qui vivent autrement. Sans hypocrisie, avec un amour sincère pour Dieu, avec simplicité de cœur, avec un amour pour leur prochain. Et la ville est bouleversée par ça, parce qu'il y a là une puissance absolument majestueuse qui est là, absolument extraordinaire qui est là. Et il va y avoir un témoignage génial qui va découler de ça. Alors ce matin, j'ai essayé de résumer en trois éléments. C'est quoi les marques que je vois dans ce passage, comment on pourrait les résumer? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu produit lorsqu'il entre dans le cœur d'individus et d'une communauté? Là, ce qui est particulier dans le passage ici, c'est que plusieurs d'entre vous, ceux qui sont des chrétiens de première génération, okay, des Gilles Saunier, là, tu sais, que ça boit, ça frappe, ça crie, ça blasphème, l'Évangile entre dans leur vie, puis bing! Imaginez tout d'un coup, là, ceux qui ont vécu quelque chose de cet ordre-là, c'est pas toujours aussi fou que Gilles, d'accord? Mais vous comprenez ce que je veux dire, la radicalité du moment où l'Évangile est entré dans votre vie, puis le Saint-Esprit est venu sur vous. 3000 qui se convertissent en même temps. C'est ça que ça donne. Une gang de malades qui veulent vivre l'Évangile ensemble à fond la caisse. Trois marques. Premièrement, un amour pour la parole de Dieu. Deuxièmement, de l'amour pour les frères et une grande générosité. Troisièmement, des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus avait dit. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Vous les avez ici. Ils sont là. Alors, premièrement, Le Saint-Esprit produit un amour pour la parole de Dieu. Il nous est dit au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres n'en finissaient plus d'enseigner. Ils étaient là et puis ils enseignaient la parole. Évidemment, à ce moment-là, ils n'avaient que l'Ancien Testament et tout ce qu'ils pouvaient raconter eux-mêmes que Jésus avait enseigné. Alors, ils ouvraient l'Ancien Testament, ils exposaient l'œuvre de Christ et aidaient ces gens à comprendre les choses que Jésus était venu accomplir et ils en mangeaient, ils en voulaient parce qu'ils relisaient enfin l'Ancien Testament avec cette lumière nouvelle du salut en Jésus-Christ, la grâce. Ils relisaient tous les passages avec cette lumière de la grâce, de l'œuvre de Christ, du salut par la foi en Jésus-Christ. Et les apôtres enseignaient et répétaient ce que Jésus avait enseigné, apportaient ces préceptes-là et ils en mangeaient. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Toute espèce d'attitude anti-intellectuelle qu'on trouve des fois dans les assemblées évangéliques, d'accord? Une attitude anti-intellectuelle qui dit « La plénitude de l'Esprit est là, puis toi, mon homme, t'es un mangeur de doctrine. » Mais je suis désolé. Je suis désolé. La plénitude de l'Esprit et l'amour pour la parole de Dieu vont de pair. Parce que l'Esprit est l'Esprit de vérité. Et il nous conduit dans toute la vérité. Et voyez-vous, ces gens-là sont remplis de l'Esprit et ils mangent la parole de Dieu. Ils en mangent. Tous les jours, ils veulent comprendre. Ils ont soif de comprendre enfin ce qu'ils n'avaient pas réalisé. Ils veulent recevoir cet enseignement. La plénitude de l'Esprit va de pair avec l'amour de la parole de Dieu. L'inverse n'est pas toujours vrai, par contre. Alors, c'est possible d'être amoureux de doctrine et ne pas être rempli de l'Esprit du tout. Ce n'est pas un amour véritable pour la parole de Dieu. Ce n'est pas, cette disposition du cœur qui dit « j'ouvre la parole pour dire « Seigneur, montre-moi ». Montre-moi là où j'erre. Montre-moi là où je suis religieux. Montre-moi, Seigneur, là où ça ne va pas. Cette semaine, je mettais en garde quelqu'un en qui je suis en train de m'investir tranquillement. Puis il est là, puis il est en train de découvrir comment la parole est riche, puis découvrir toutes sortes d'enseignements dans la parole. Puis je lui disais, tu sais, il y a un piège incroyable là-dedans. Et le piège, c'est celui-ci, tu peux devenir amoureux de la doctrine. Vous savez quoi? Moi, je peux triper longtemps sur le concept de Dieu. Dieu comme concept, c'est capotant. Là. C'est fort, là. Puis la loi de Dieu est tellement fantastique, puis ce que Dieu a fait, c'est tellement merveilleux que philosophiquement, je peux triper solide longtemps. Je peux aller prendre un café avec vous, puis juste triper sur les concepts qu'il y a là. Wow! C'est fort! Tous les systèmes philosophiques qui existent, c'est rien à côté de ça. Tu les étudies, puis tu compares la grâce, la beauté de ce que Christ a fait à la croix, puis... Tu peux même en venir à mépriser tous les hommes de la terre qui ne connaissent pas l'Évangile de Jésus-Christ. C'est tellement beau comme concept. Mais c'est vide et c'est creux. Et c'est en vain si je suis en amour seulement avec ces concepts, avec cette idée de Dieu sur laquelle je peux discourir sans fin, vous parler de ce Dieu qui m'a montré comment vivre moi dans la sainteté. Va te coucher. Repens-toi. Ouvre la Bible. Reconnais que tu es un pécheur. Humilie-toi devant ton Dieu. Puis là, trip solide, mon ami. Là, c'est bon. Là. Alors, voyez-vous, c'est possible d'être amoureux de la doctrine et pas être rempli de l'Esprit, mais la plénitude de l'Esprit va de pair avec l'amour de la parole de Dieu parce que c'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et donc, il n'y a pas lieu pour un chrétien d'avoir cette attitude anti-intellectuelle qui dit « on le sait, vous parlez de doctrine, doctrine, doctrine. » T'es-tu en train de me dire que je suis un pharisien? Peut-être, alors je me repentirai. Mais si tu es rempli de l'Esprit, tu vas être amoureux de doctrine, tu vas être amoureux de l'enseignement de la parole de Dieu. Maintenant, une subtilité, un élément qui est, je crois, très, très, très important ici, c'est que ses premiers disciples étaient... particulièrement en amour avec la révélation de la personne de Jésus-Christ et de l'œuvre de son salut. Alors, je crois que dans ces premiers jours, ces premières semaines, ces premiers mois, particulièrement ce qui les émerveille, c'est de relire l'Ancien Testament en comprenant l'œuvre de Jésus-Christ. Alors je m'adresse à ceux d'entre vous qui lisez la Bible ou qui avez été élevés dans l'Église depuis votre tendre enfance, puis vous dites, oh, ouf, l'Ancien Testament, tu sais, c'est long, c'est plate, il y a des grandes longueurs, les prophètes, tu comprends absolument rien, la loi. Pff, moi, j'aime mieux la grâce avec Jésus. C'est simplement parce que vous ne voyez pas Jésus dans l'Ancien Testament. Mais une fois que vous allez saisir que Christ est l'accomplissement de toute la loi de l'Ancien Testament, vous allez lire l'Ancien Testament, c'est bon, c'est merveilleux. Alors je crois que les apôtres particulièrement conduisaient le peuple dans cette découverte du plan de salut qui est révélé à travers tout l'Ancien Testament et qui vient s'accomplir, qui est annoncé, qui vient s'accomplir en Jésus-Christ. Et il leur ouvrait les yeux afin qu'ils découvrent vraiment c'est quoi la loi de Dieu, c'est quoi la grâce, c'est quoi le salut, comment Dieu veut sauver, c'est quoi la foi, c'est quoi la place de l'obéissance, c'est quoi la sainteté, pourquoi la sainteté, pourquoi la sainteté par grâce. Alors quand j'ai saisi Christ puis je m'en vais étudier l'Ancien Testament, wow, c'est absolument merveilleux. Je découvre enfin la Bible. Alors je crois qu'il y avait cet enseignement, là, je vais prendre un terme théologique, christocentrique. D'accord? Centré sur la personne de Christ pour saisir les Écritures. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous cherchons à faire dans cette assemblée. D'accord? Nous cherchons à enseigner un enseignement qui est toujours centré sur la personne de Christ parce que l'œuvre de Jésus-Christ est la clé pour comprendre la personne de Dieu, son œuvre et sa parole. Et donc, nous lisons les Écritures pour comprendre ce que Dieu a annoncé, ce qu'il a préparé et comment ça s'est accompli en Jésus-Christ. Première marque d'une communauté qui a saisi le pardon des péchés et qui a reçu le don de l'Esprit, un amour profond pour la parole de Dieu. Je vais citer Jean. Si tu as abandonné ton amour pour la parole de Dieu, rappelle-toi d'où tu es tombé et reviens à la parole de Dieu. Ne cherche pas ailleurs ce feu qui va s'éveiller en toi. Rouvre ta Bible demain matin. Lis les Écritures, mémorise les Écritures. Je collectionne les applications sur mon iPhone pour mémoriser la Bible, afin qu'elle soit là en moi, qu'elle puisse animer mes pensées, qu'elle soit là constamment sur mon cœur, qu'elle vienne façonner mes interactions avec les gens, ma manière de voir Dieu, ma manière de réagir à ce qui se passe dans ma vie. Cette première communauté était profondément en amour avec la parole de Dieu et cherchait à comprendre la révélation de l'œuvre de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Maintenant, si tu es un chrétien de deuxième génération, puis peut-être finalement pas un chrétien, tu sais, comme un chrétien nominal de deuxième génération, tu viens à l'église parce que tes parents venaient à l'église, puis tu regardes tout ça, puis tu dis « ouais, bof, c'est beau, c'est cool, c'est le fun ». C'est peut-être parce que tu n'as pas découvert Jésus-Christ encore. Et pour toi, tout ça, c'est une religion avec des principes. Et vous savez, lorsqu'on n'a pas saisi la grâce, ces principes-là sont abominables à porter. Marcher dans la sainteté, quand tu penses qu'il faut que tu y arrives par tes propres efforts, hey boy. Alors, lis les Écritures pour découvrir Jésus-Christ. Demande à Dieu, fais-moi connaître Jésus-Christ pour que je puisse redécouvrir la Bible qu'on m'enseigne depuis mon enfance et que je puisse comprendre Christ à travers les Écritures. Deuxième marque, l'amour pour les frères et une grande générosité. On arrive là où ça vous trouble, là, faites-vous-en pas. Avant de parler du partage et comment ils étaient généreux les uns envers les autres, je voudrais souligner quelque chose. Lorsque l'Esprit de Dieu fait une œuvre au milieu d'une communauté, les chrétiens passent du temps ensemble. Des fois, je dis à mes enfants, ils trouvent qu'on est très, très occupés, mais on fait plein de choses. Puis là, on se comparait avec des amis à l'école, tout ça, tu sais. Je leur dis, c'est vrai. Parce qu'on est citoyens des cieux et citoyens de la terre. Puis on vit à notre époque, mais en même temps, on a une passion plus grande qui nous amène ailleurs. Quand l'Esprit de Dieu est au milieu d'une communauté activement à l'œuvre, les chrétiens passent du temps ensemble. Ils le font. Simplement parce que c'est là qu'on va s'édifier mutuellement. C'est là qu'on va prendre soin les uns des autres. C'est là qu'on va s'aider à grandir. C'est là qu'on va supporter dans la prière. C'est là qu'on va parler ensemble des merveilles de Dieu. quand je visite la famille, quand je me tiens avec des gens qui ne sont pas au Seigneur, je peux avoir tellement du bon temps avec eux pour jaser ensemble d'un dernier film qui est sorti ou parler de chasse avec mon père ou parler de chien avec lui. Puis juste aller faire un tour de canot puis regarder la beauté de la nature, c'est génial. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas eux qui vont verser une larme sur la beauté de l'Évangile. Voyez-vous, c'est avec les frères et sœurs que je vais trouver ça. Alors, ces premiers chrétiens avaient du temps et prenaient du temps pour passer du temps ensemble. Vous allez me dire, c'était une autre époque. Mais oui, je sais, faites du ménage. Ne suivez pas simplement le temps où nous vivons. Ces gens-là passaient du temps ensemble. Passaient du temps régulièrement ensemble pour pouvoir partager ensemble. Et ils font preuve d'une grande générosité. Il dit ici dans le passage, c'est assez troublant, j'avoue, là, lorsqu'il dit, c'est quand même intense, « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Au verset 44, il dit, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. » Maintenant, lorsqu'on continue à lire les Actes, et si vous êtes familier avec les Actes, vous savez, les chrétiens gardaient des maisons, ils avaient leur maison, ils vivaient dans les maisons, on se réunissait dans la maison de celui-ci, dans la maison de celui-là. Et donc, on n'est pas en train d'assister à une formation d'une commune où comment tout le monde commence à vendre tous ses biens, puis on va tous habiter là, d'accord? La sommeur rend un petit peu mieux ce passage-là, selon moi. Mais il y a un principe très, très important, par contre, que je veux souligner ici. Ton rapport aux biens matériels, ton rapport au temps, ton rapport à ce que les non-chrétiens vivent change profondément. Et je le résumerai comme ça ici. Alors oui, à ce moment-là, il y a des gens qui ont fait des choses complètement flyées comme Barnabas qui va vendre une terre, qui va vendre un terrain pour pourvoir aux besoins de quelqu'un d'autre. C'est vraiment fou là, comme affaire. C'est parce que c'est ton fonds de pension, Johnny. Veux-tu être sage? Tu sais-tu si demain matin tu vas encore pouvoir travailler? Comment tu vas faire pour pourvoir aux besoins de ta famille? Le rapport au bien matériel lorsque l'Esprit de Dieu habite au milieu d'une communauté change profondément. Et tout à l'heure, je disais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vivre simplement les béatitudes. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est à ça qu'on assiste ici. Voyez-vous, ces gens-là ne deviennent pas insensés, incapables de prévoir pour demain, qu'ils n'arrêtent pas de travailler, ils ne se mettent pas à vendre toute leur maison, c'est pas vrai. Mais ils deviennent en même temps assez spéciaux parce qu'ils prennent à cœur de prendre soin les uns des autres de manière assez extraordinaire. Moi, j'ai eu le privilège l'année de ma conversion de voir mes parents quitter ce qu'ils avaient pour pouvoir partir en mission à court terme. Coller de l'argent, des milliers de dollars pendant des mois, renoncer à des périodes de travail, renoncer à des revenus, tout ça, pour pouvoir partir en mission à court terme. Ce même été-là, il y avait une équipe de JBEC qui venait ici. JBEC, c'est une organisation missionnaire au Québec, un peu comme Julie va aller au Togo, mais c'est pour le Québec ici, c'est des jeunes étudiants. Et puis, j'ai eu une espèce de fou qui est arrivé chez nous, parce que mes parents disaient, Yannick vient de se convertir, on va être parti là-bas. Je pense qu'il faudrait qu'on mette quelqu'un de solide au milieu de là. Fait que nous, on va avoir un Jibécois qui va habiter avec toi, Yannick. Jean-Paul Gagné est venu chez nous. Je vois Jean-Paul qui arrive chez nous. Puis là, complètement incroyable comme gars, il a décidé qu'il donnait son été pour le Seigneur. Il me dit, Yannick, je vais habiter chez vous. On est deux chrétiens. Regarde, on se lève demain matin. On fait notre culte ensemble à tout à l'heure. Oui, Jean-Paul, OK, c'est le même. Ça marche, la vie chrétienne. Très, très tôt dans ma vie chrétienne, j'ai compris qu'il y avait de quoi qui changeait dans mon rapport à l'argent, dans mon rapport au temps. Les priorités n'étaient plus les mêmes. J'ai eu ce privilège-là extraordinaire et j'ai compris très tôt que ces choses-là ne deviennent plus que des outils dans ma vie. L'argent n'est plus un dieu, mais devient un outil. Mes biens matériels ne sont plus des dieux dans ma vie, mais deviennent des outils qui appartiennent à Dieu et que Dieu me demande d'administrer avec sagesse. Pour l'avancement de son royaume. Pas pour mon fonds de pension, pour l'avancement de son royaume. Ça veut dire que je vais prévoir l'avenir. Ça veut dire que je vais être sage. Ça veut dire que je vais être prudent. Ça veut dire que je vais travailler fort. Mais pour l'avancement de son royaume. Et ça, c'est entré très tôt dans ma compréhension de la vie chrétienne. Alors, voyez-vous, je l'ai partagé avec l'Assemblée régulièrement. J'imagine que c'est le Saint-Esprit qui me conduit à ça. Une fois par année, deux fois par année, je suis assis chez nous. Puis là, je regarde. Maison, deux voitures. Comment ça coûte de l'argent? On accumule des biens. 20 ans de mariage, c'est dur de déménager après 20 ans de mariage. Hein? Prends trois trocs. Puis là, je dis, Seigneur, tout ça. Oh oui, iPad, iPhone aussi, tout ça. Je dis, Seigneur, c'est à toi ça. Fait que si le Saint-Esprit vous dit que je dois vous donner mon iPhone, vous me le direz, je vais vous le donner, d'accord? Mais c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Je dis, Seigneur, tout ça est à toi, c'est pas à moi. Tu me l'as prêté. Dis-moi ce que j'ai à faire avec ça. Et voyez-vous, mon rapport avec une voiture, c'est pas le rapport que mon voisin a avec sa voiture. Mon rapport avec ma maison, c'est pas le rapport que mon voisin a avec sa maison. Mon rapport avec l'argent que je peux coller pour l'avenir, c'est pas le même. Vous savez, v'là 2 ans, Esther et moi, on a décidé de donner quelques mois de travail à l'Église gratuitement. Il a fallu qu'on ait cherché de l'argent qu'on avait mis de côté pour ça. Mais vous savez quoi? Je le dis parce que pour nous, c'était pas quelque chose de phénoménal. J'avais pas l'impression d'être un flyer, une exception. J'avais l'impression juste de lire la Bible puis d'appliquer la Bible. Puis à un moment donné, j'ai eu cette idée-là qui m'est passée dans la tête. Les finances sont serrées, on a des sous. Pourquoi on n'encouragerait pas l'Église? On ne libérerait pas l'Église de la pression qu'il y a là? On va donner quelques mois, puis on va subvenir à nos besoins. Si je n'avais pas pu le faire, j'aurais dit, Seigneur, il faut que tu pourvoies, parce que ça a l'air, ce n'est pas moi qui vais le faire à ce moment-ci. Tu sais, mais je l'avais. Et pour moi, il n'y avait pas rien de phénoménal dans ce qui se produisait là. C'était pas un point d'orgueil, c'était pas comme, hey, je vais lui montrer qu'il faut se sacrifier. Comprenez, c'était pas ça. C'est juste, j'appartiens à Jésus, puis l'argent est là, puis je pense que Jésus m'avait dit, ben Yannick, c'est toi qui vas payer ton salaire pour un petit bout, puis on va grandir ensemble. Leur rapport à l'argent change profondément. Et donc, ils vont faire des choses qui vont paraître complètement cinglées. Est-ce qu'ils abandonnent tous leurs biens? Non, continuez à lire les actes, vous allez voir. Mais si vous lisez aussi ce que Paul enseigne aux riches, et entendons-nous, 80% des gens dans cette salle font partie des riches. Je sais, vous avez de la misère à boucler les fins de mois. On est pareil comme vous, d'accord? Faisons juste prendre Google, Earth, tu sais, sortez un petit peu de la planète Québec, là. Réalisez que vous êtes riches. On est très, 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 très riches. Ça se peut que je doive attendre une couple de mois avant de m'acheter mon prochain ordi. En tout cas, c'est dur. Ces gens-là continuaient à avoir des maisons, continuaient à avoir des biens. Et Paul dit, si vous êtes riche, c'est pour prendre soin des autres. Alors, le principe que je voudrais qu'on retienne ici, c'est que partout où le Saint-Esprit va amener le pardon des péchés et va donner, va venir habiter dans les cœurs, on prend soin des gens plus démunis au milieu de nous. La pauvreté au milieu de l'Église, c'est quelque chose qui doit être constamment attaqué. On doit s'attaquer à ça. On doit chercher à prendre soin des frères et sœurs. Et on peut être créatif, voyez-vous. On ne peut pas se mettre à payer les hypothèques de tout le monde dès que quelqu'un ne va pas bien. Mais on peut devenir très, très, très créatif. Il y a toutes sortes de richesses qu'on peut partager. Une des difficultés dans notre société, c'est tous les foyers monoparentaux où il y a quelque chose qui manque, c'est difficile et on peut prendre soin les uns des autres. Il y a un frère dernièrement qui est veuf depuis très peu de temps. Qui me partageait, il me dit, Yannick, je suis tout seul avec mon enfant, puis c'est comme si j'ai peur à quelque part qu'il ne voit plus une famille. Puis pourtant, c'est pas vrai. Hein? Son père est là, puis il prend soin de lui, puis il a sa famille. Ouais, mais tu comprends, Yannick, ce que je veux dire. Il a été élevé en ayant maman qui était là aussi, puis c'était tellement plus le fun. Fait que peut-être qu'on pourrait partir ensemble. Je vous invite à mon chalet, puis on va aller passer une fin de semaine ensemble, juste pour qu'il voit Esther. Une famille qui fonctionne là. Voyez-vous? Et donc, tout ce que je peux faire, c'est décider de dire, il y a des gens qui n'ont pas toutes ces grâces-là, je les fais entrer dans ma maison. Je les invite à manger chez nous. Je les amène avec moi à faire du sport. Je leur donne de mon temps. C'est une richesse extraordinaire que je peux leur donner. et découvre à quel point on est riche dans la famille de Dieu. Ça se fait de toutes sortes de manières. Soyez créatifs. Une des plus belles manières que vous pouvez partager vos richesses, c'est en invitant les gens à manger chez vous, à passer 3 heures dans votre compagnie. On a une famille au début du ministère qui nous a reçus tous les dimanches, pendant des mois, voire des années. Et il disait, Yannick, quand tu rentres ici, t'enlèves ta soutane, tu l'accroches sur le crochet qui est là, t'arrêtes de jouer au pasteur, t'es un chrétien, tu peux relaxer. T'es chez nous. Qu'est-ce que t'as le goût de manger? Hey boy! C'est des beaux souvenirs. Voyez-vous, on peut partager, on peut prendre soin, mais la pauvreté au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit attaquer constamment. Et chercher à prendre soin les uns des autres. Et c'était là, il y a cette générosité qui est là. C'est présent. Luc n'est pas en train de dire ici, il faut que vous soyez comme ça, je vous ferai remarquer. Hein? Luc est juste en train de dire, si vous avez l'Esprit de Dieu, ça se produit. C'est ce qui se passe. Il raconte ce qui se passe, c'est tout ce qu'il est en train de faire ici. Dernier élément. Quand il y a le pardon des péchés et que l'Esprit de Dieu vient habiter les cœurs, cela produit des adorateurs en esprit et en vérité. Et là, je voudrais juste parler de la prière, la louange qu'on voit ici, mais l'attitude de cœur aussi en général. Il y a trois sentiments ici qui me touchent particulièrement. Si vous regardez le verset 43, c'est dit « La crainte s'emparait de chacun d'eux. » Quand Dieu fait une œuvre puissante au milieu d'une assemblée, à un certain moment donné, tu commences à regarder autour de toi, puis tu entends les histoires, et c'est un des privilèges d'être pasteur. Moi, je vois à la fois les manquements de l'Église et les grâces, la gloire de l'Église à tout moment. Puis là, tu commences à regarder autour de toi, puis tu vois ce que Dieu a fait dans le cœur de telle personne. Tu entends que lui est allé visiter lui est en train d'aider ici, telle sœur est en train de prendre un temps avec quelqu'un qui souffre. Puis là, tu entends tous ces récits-là. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'à un certain moment donné, il regardait tout ça. Ce n'est pas les miracles. Hein? Les miracles sont mentionnés après. C'est juste voir ça, comprendre l'Évangile, puis voir ce que Dieu est en train de faire. Et ils avaient un sentiment de profonde révérence envers Dieu. C'est ce moment où tu dis, « Dieu est ici. » C'est une joie. Quand vous voulez comprendre cette expression-là de la crainte de Dieu, c'est à la fois une joie profonde, parce qu'on voit que ces gens-là étaient remplis de joie, c'est ce qui nous est dit un tout petit peu plus bas, puis en même temps, il y a une révérence envers Dieu. Et je vais faire une comparaison. C'est en quelle année là, que le Canadien, avant que je dise des niaiseries, a gagné la dernière Coupe Stanley? Quelle année? 93. Moi, j'aurais pu vous dire n'importe quoi. Quand vous m'entendez parler de sport, j'essaie d'avoir de la cool, OK? À part le karaté, là. 93. Il y a eu quand même beaucoup de joie à ce moment-là, hein? C'est vrai? Non, mais le Canadien gagne la Coupe Stanley. C'est l'euphorie totale. Il y a une joie profonde. Sans aucune révérence. Qu'est-ce que ça produit? Je veux dire, les manifestants de cette semaine, là, c'est de la petite bière, mes amis. Ils ne savent pas c'est quoi saccager une ville, eux autres. On a juste à gagner la Coupe Stanley, puis nous, on sait c'est quoi brasser la cabane. Alors, voyez-vous, il y a eu cette euphorie, cette joie qui était super légitime. Le Canadien vient de gagner la Coupe Stanley! Aucune révérence, parce que ce n'est pas une joie qui concerne Dieu. Ce qu'ils sont en train de vivre ici. Je ne crois pas que c'est inférieur en termes de joie. Au contraire, tu sais, les Canadiens qui gagnent la Coupe Stanley, puis Dieu a sauvé mon âme pour l'éternité. Mets ça dans la balance, là, tu sais, comme des affaires qui sont assez insignifiantes. Coupe Stanley, tonk. Donc, il y avait cette joie intense, mais c'était dans la présence de Dieu. Dieu était à l'œuvre au milieu d'eux. Et donc, il y avait ce sentiment que Dieu est ici. Dieu est en train de faire des choses. Et ce que cela produit, c'est beaucoup de considération pour les gens autour de nous, dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, dans ma manière de me comporter. Je veux participer à cette manifestation de la gloire de Dieu au milieu de nous. Et ça vient affecter mon rapport aux autres, mon rapport à Dieu, ce que je vais me permettre de faire, ce que je ne ferai pas, parce que, wow, Dieu est ici. Et cette semaine, j'étais en train de penser à l'Église. Parce que vous savez, on est au tout début de l'Église ici, puis on dit, wow, c'est comme, ils sont malades. C'est 3000 nouveaux convertis. Oh oui, ils sont malades, certains. Puis on va lire les actes, puis ouf, on va voir qu'il y en a un qui se met à boiter, puis il y en a un qui va être repris, puis là tu dis, oh, ça commence à ressembler à une église comme je connais, tu sais. Comme, c'est pas tout super cool, tout le temps hot, tu sais. Mais j'étais en train de réfléchir à notre assemblée, à l'Église de l'Espoir. J'étais en train de regarder l'Église. J'étais en train de me poser la question, puis dire, Seigneur, combien est-ce que je vois de ces personnes qui vivent avec cette plénitude de l'Esprit-Saint, qui font des affaires tellement folles. Et honnêtement, il y en a un très grand nombre. Des Marc Levasseur, il y en a plein ici, selon l'appel de chacun, qui font des choses extraordinaires par amour pour Dieu, qui vivent vraiment de manière contre-culturelle, qui ne sont pas en train de vivre pour s'accumuler un petit royaume sur la terre, mais qui sont en train de vivre pour Dieu, qui ont un amour profond pour Dieu, qui cherchent à se dévouer. Il y en a un grand nombre qui sont présents ici au milieu de nous. Et je gagne à côtoyer les frères pour pouvoir entendre ce que Dieu est en train de faire autour de nous. Avoir cette joie profonde, cette simplicité dans ma foi. Alors, les trois marques que je vois dans ce passage. Lorsque Dieu amène le pardon des péchés et donne son esprit, un amour profond pour la parole de Dieu. Un amour profond pour la parole de Dieu. Un amour pour les frères et sœurs qui vont m'amener à fréquenter les frères et sœurs et à être généreux avec mes biens. Ça change profondément mon rapport aux biens matériels. Et enfin, troisièmement, des adorateurs en esprit et en vérité qui prennent plaisir à louer Dieu, plaisir à aller dans la prière, qui ont beaucoup de joie dans le cœur. Si tu n'es pas chrétien, je le dis souvent, mais c'est sûr ici, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Peut-être que vous fréquentez l'Église depuis votre enfance, vous n'êtes pas chrétien peut-être. Je ne sais pas. Si tu n'es pas chrétien, qu'est-ce que Dieu veut t'offrir et veut t'offrir cette vie-là intense? Comment est-ce que tu peux y parvenir? Repens-toi. Repens-toi et cherche à connaître Jésus-Christ. Apprends et comprends l'Évangile de Jésus-Christ, la grâce du pardon des péchés qui t'est offerte en Jésus-Christ. Et décide de marcher dans ses voies. Et comme moi, et comme chacune des personnes ici qui a cru en Jésus-Christ, tu vas recevoir l'Esprit Saint qui va te donner ce cœur nouveau pour entrer dans une vie nouvelle. Si tu es chrétien, puis lorsque tu lis des passages comme ça dans le Nouveau Testament, tu as un regard cynique sur ces passages-là parce que tu dis « Wow, c'était bon pour une semaine cette affaire-là ». Ils sont tous retournés essayer leur paire de bœuf, puis entretenir leur champ, puis retourner à leurs vieilles idoles, à leurs petits péchés. Probablement que tu as attristé l'Esprit de Dieu. Parce que vous remarquez bien dans le passage, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, ça. Et probablement que vous avez attristé l'Esprit de Dieu. Une bonne piste que je peux vous donner, c'est d'examiner ces trois marques-là. Dans le petit inséré que vous avez dans le dépliant, à l'arrière, j'ai posé cette question. Est-ce que dans une ou plusieurs de ces marques-là, vous avez attristé l'Esprit de Dieu? Perdu votre amour pour la parole de Dieu, pour sonder les Écritures, connaître la loi de Dieu, découvrir Christ dans la parole de Dieu? Vous êtes éloigné des frères? Vous n'êtes pas dans un petit groupe, vous n'avez pas de communion avec des frères intimement, vous ne cherchez pas ça assidûment, vous n'allez pas prendre des cafés avec des frères et sœurs pour partager, pour vous soutenir, pour prier les uns pour les autres. Peut-être que vous êtes éloigné, peut-être que vous avez décidé de ne pas être généreux. Vous n'êtes pas en train de chercher le royaume premièrement de Dieu, mais vous êtes en train de bâtir votre royaume sur la terre et vous avez attristé l'Esprit de Dieu en ayant ce rapport au bien matériel qui est tellement pareil comme tout le monde qui ne connaît pas Jésus. Ou peut-être encore simplement que vous avez perdu ce cœur d'adorateur qui vient le dimanche matin dans la louange. Je ne pensais pas vous faire une petite remontrance ce matin, mais je vais la faire. Vous savez, lorsque la louange commence, on devrait tous être ici. On devrait tous être ici dans la salle, toute la gang. Moi, quand je suis ici dans la première rangée, c'est pas pour que vous me regardiez chanter, c'est parce que je ne veux pas être distrait en regardant la moitié de la salle qui est peut-être vide. Ou distrait parce que je suis en train de me demander, j'ai-tu de l'air hot quand je loue, moi? Et quelqu'un m'a fait quelques commentaires dans la main, il m'a dit, il y en a que tu bouges quand on loue, je pense que tu veux stimuler la gang. Si vous saviez comme je m'en contrefou. Moi, j'allais avec ma mère écouter de son et brioche à la place des arts, puis c'était vraiment une flyée hippie. Elle fermait ses yeux. Ben, ça s'est transmis un petit peu, cette affaire-là. Vous voyez? Peut-être que c'est là que tu as attristé l'esprit. Les chants, pour toi, c'est des chants trop forts, c'est des chants trop jeunes, j'ai oublié mon café, je viens chercher mon café. Des adorateurs en esprit, en vérité. On vient ici pour louer notre Dieu, pour lui dire combien il est merveilleux et l'aimer, pour le prier, pour aller dans la prière avec des frères et sœurs, avec simplicité de cœur, dire, Seigneur, tu m'aimes et je veux marcher dans tes voies. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, je veux te bénir pour ce passage qui moi aussi, Seigneur, me bouleverse. Moi aussi, ça me brasse et je me dis, bon, il y a des endroits où je cherche à m'installer dans une religion, je cherche à m'asseoir dans un modèle qui sera pas trop dérangeant, qui va pas trop me bouleverser. Et Seigneur, cette semaine, tu me montrais des endroits où je suis constamment en danger d'attrister ton esprit. Moi aussi, Seigneur. Mais tu sais, Seigneur Jésus, tu sais, Seigneur Jésus, que tu es mon bien le plus précieux. Et que pour moi, t'adorer, te servir, c'est mon bien. Alors pardonne-moi, Seigneur, lorsque j'attriste ton esprit. Parce que, Seigneur, je veux vivre cette vie entière que je vois dans les Écritures. Rien en bas de ça, Seigneur. Je veux vivre cette vie de joie, de paix, de révérence envers toi. Cette plénitude, Seigneur, de toi. Je veux vivre en t'aimant et en aimant mes frères et sœurs. Je veux vivre avec un témoignage puissant qui va bouleverser les gens qui vont me rencontrer et qui vont rencontrer cette Église, Seigneur. Viens faire une œuvre belle au milieu de nous, Seigneur. Et que le livre des actes soit notre aspiration profonde comme assemblée, Seigneur. Que nous puissions persévérer dans la prière. Persévérer dans l'enseignement, persévérer dans notre communion fraternelle, dans notre amour les uns pour les autres, Seigneur. Fais-nous grandir, Jésus. Amen.